France Inter. Leur philo. Bienvenue dans l'heure philo, Lilian Allôme à la réalisation, Chantal Le Montagné à la préparation, Jobaka au choix des disques et Tilaï Ravu à la console. Nouveau numéro de notre masterclass consacré aux notions étudiées au baccalauréat. Après le bonheur, après la liberté et à la suite de la laïcité, nous allons aujourd'hui parler de l'art, des artistes évidemment, de la création, mais aussi du talent et pourquoi pas du génie.
L'heure philo. Patricia Martin, sur France Inter.
On a souvent remarqué que la pensée et l'art moderne sont difficiles. Il est plus difficile de comprendre et d'aimer Picasso que Poussin ou Chardin. La pensée moderne est difficile, elle prend à contre-pied le sens commun parce qu'elle a le souci de la vérité et que l'expérience ne lui permet plus honnêtement de s'en tenir à des idées claires ou simples auquel le sens commun est attaché parce qu'elle lui donne la tranquillité. L'enseignement classique de la peinture est fondé, par exemple, sur la perspective. C'est-à-dire que le peintre, en présence d'un paysage, par exemple, décidait de ne reporter sur sa toile qu'une représentation toute conventionnelle de ce qu'il voit. Il voit l'arbre près de lui. Puis il fixe son regard plus loin, sur la route. Puis enfin, il le porte à l'horizon. Et, évidemment, selon le point qu'il fixe, les dimensions apparentes des autres objets sont chaque fois modifiées. Sur sa toile, il s'arrangera pour ne faire figurer qu'un compromis entre ces diverses visions. Il s'efforcera de trouver un commun dénominateur à toutes ces perceptions en attribuant à chaque objet, non pas la taille et les couleurs et l'aspect qu'il présente quand le peintre le fixe, mais une taille et un aspect conventionnels, la taille et l'aspect qui s'offriraient à un regard fixé sur la ligne d'horizon.
C'était Maurice Merleau-Ponty et sans doute aurons-nous l'occasion de commenter ses propos. Lorsque je dis « nous », eh bien il s'agit des élèves de terminale design et art appliqué du lycée Auguste Renoir, qui est situé à Paris dans le 18e arrondissement. Il s'agit également de leur professeur de philosophie, Martine Gasparoff, ainsi que de la philosophe Gaëlle Perriot. Martine Gasparoff, à vous l'honneur. L'art est une notion très vaste aussi, on a choisi ensemble de traiter un aspect plus spécifique de l'art, c'est faut-il avoir un don pour être artiste ? Et rien que ça, c'est déjà pas une mince affaire. Mais avant de parler de ça, je voudrais peut-être que vous nous disiez un mot du lycée Auguste Renoir, qui est un lycée technologique d'art appliqué. On y entre sur dossier, c'est bien ça ?
Oui, effectivement, on y entre après le collège, sur dossier, en classe de seconde. Et la classe de seconde est donc c'est un enseignement qui est général, mais auquel s'ajoutent 6 heures de spécialité. Ouais. Et cette spécialité, cet enseignement de spécialité se déroule en plus des enseignements généraux, et il s'agit de création et de culture design. Donc les lycéens obtiennent un baccalauréat technologique, STD 2A, donc sciences et techniques du design et des arts appliqués. Et à l'issue de la terminale, ils peuvent postuler pour un DNMAD, donc qui est l'acronyme de Diplôme National des Métiers d'Art et du Design. D'accord. Et nous avons aussi des sections dans notre école de DNMAD en céramique, en graphisme, images de narration et images de communication.
Alors, on en revient à notre sujet d'aujourd'hui. Faut-il un don pour être artiste ? Déjà, on peut se demander qu'est-ce que c'est que d'avoir un don ? Qu'est-ce que c'est qu'un don ? C'est un talent, c'est un génie, c'est quoi ?
Effectivement, c'est quelque chose qui pourrait au premier abord être mystérieux. C'est une sorte de facilité naturelle, spontanée, qui est un peu comme une facilité qu'on pourrait avoir en mathématiques. Quelqu'un peut être doué dans un domaine, et là, le dessin, et en général, les élèves que nous avons dans notre établissement ont un certain nombre de dons ou de talents pour dessiner déjà.
Comme vous, Martine Kasparov, vous êtes douée pour la philosophie. Gaëlle Perriot, vous l'êtes également. Vous êtes maîtresse de conférences en philosophie de l'art et esthétique à Sorbonne Université. Je précise que vous connaissez bien d'ailleurs avec Martine Kasparov. Le don, on se dit que c'est quelque chose qui est donné à la naissance, qui est dans les gènes presque. Mais en fait, l'affaire est beaucoup plus compliquée que ça.
Oui, alors c'est vrai que c'est une notion qui renvoie à l'inné et qui, du même coup, pose un certain nombre de problèmes. C'est-à-dire que ce qu'on essaie d'expliquer par le don, à savoir la conjugaison mystérieuse entre une évidente facilité et une extrême virtuosité, eh bien la réponse qu'on trouve avec le don, en réalité, la question se pose de savoir si elle répond vraiment à quelque chose. Et surtout, ce qui m'intéresse dans cette notion, c'est la question de savoir si elle n'interdit pas de penser un certain nombre de conditions de la création, des conditions empiriques, la manière dont un artiste travaille, mais aussi, du même coup, l'inscription d'une œuvre dans un processus.
Voilà. Alors, on reviendra certainement sur ce souci de la vérité dont on entendait Maurice Merleau-Ponty parler en ouverture de l'émission. Mais l'art moderne, vous diriez, Gaëlle Perriot, que c'est quelque chose de difficile, d'une manière générale ?
Je ne sais pas si c'est difficile. D'ailleurs, quand on emmène des enfants dans un musée d'art moderne, ils ont parfois une facilité plus grande que lorsqu'on les conduit au Louvre, parce que certaines œuvres du passé requièrent une connaissance, une compréhension de problématiques qui sont à la fois celles d'un autre temps, d'une autre culture, et en même temps qui sont extrêmement élaborées aussi dans les processus, par exemple, de l'histoire de la perspective. Donc je ne sais pas si l'art moderne est difficile. En tout cas, ce que Merleau-Ponty entend par cette difficulté me semble très très intéressant, parce que c'est un des philosophes qui s'est, à l'époque contemporaine, particulièrement intéressé aux arts.
C'est pour ça qu'on l'a choisi.
À juste titre, parce que ce qu'il essaie de rendre dans son approche des œuvres d'art et de la démarche des artistes, c'est ce qu'il appelle une déformation cohérente, qui est particulièrement marqué à l'époque contemporaine, c'est-à-dire déformation cohérente de la perception, une manière aussi de faire un pas de côté par rapport à des conventions de perception du réel.
Alors, autour de la table, un certain nombre d'élèves, il y en a 4 si je compte bien, il y en a tout plein qui sont assis par terre, je suis désolée parce qu'il y en a quelquefois qui sont à 2 sur un siège qui est a priori plutôt pour 1, mais vous allez vous succéder autour de cette table et au micro, il y a Jade, Violette, Lénie et Sacha pour le moment. Est-ce que pour vous, je ne sais pas lequel de vous veut répondre, laquelle de vous veut répondre, mais est-ce que être artiste, parce qu'on parle de métier artistique, est-ce que pour vous être artiste c'est un métier ? Est-ce que c'est ce à quoi, a priori, vous vous destinez, Jade ?
Elias dit que...
Ça commence fort.
Elias dit que l'art peut être comparé au mécanicien ou au mathématicien qui se perfectionne dans son savoir-faire. Il dit donc que l'art, la facilité de créer de l'art émerge d'un contexte social, économique et culturel particulier. On peut prendre l'exemple de Mozart, qui a appris le piano grâce à son père, qui était un très grand musicien.
Mais Dieu sait si on a parlé du génie de Mozart, comme ça, si ça lui tombait du ciel.
En effet.
C'est un peu autre chose.
Sauf que ce qu'on ne voit pas derrière ce génie, c'est le travail que cela requiert. Mozart a travaillé pendant des années sur ses œuvres. Ouais. Et donc, on peut dire que être artiste, c'est un métier parce que cela requiert un savoir-faire et un travail constant sur ses aptitudes et un regard critique sur ce que l'on réalise.
Alors, je ne sais pas, il y a Violette, Sacha peut-être qui veut réagir. Je précise simplement pour les auditeurs que je vous tutoie, mais je vous ai demandé la permission avant, parce que moi je suis plus à l'aise. Vous ne m'avez pas dit non, mais peut-être parce que vous vous êtes dit, si on dit non, on va se faire engueuler. Alors, Violette ?
Pour moi, en fait, je pense que ça dépend vraiment du point de vue de la personne. Ou en fait, si elle veut se concentrer sur l'art comme étant un métier, elle va en faire un métier. Mais par exemple, si c'est plutôt une passion ou un hobby, ben elle va le prendre comme un hobby. Donc ça dépend vraiment de ce que la personne, de la manière dont la personne perçoit l'art.
Vous avez parlé de Mozart là, mais est-ce que par exemple vous pensez que quelqu'un comme Van Gogh, sur lequel on va peut-être revenir d'ailleurs tout à l'heure, est-ce que Van Gogh s'est dit mon métier ça va être d'être peintre, Sacha?
il se voyait pas faire autre chose. Il pensait vraiment que c'était toute sa vie. Et d'ailleurs, il a passé toute sa vie à peindre, même si pour lui c'était très compliqué, qu'il a vécu dans la misère, qu'il a fini sa vie sans aucun argent. Justement, aussi aujourd'hui, c'est compliqué de vivre de l'art, sauf si on est comme un géant de business aussi, comme Jeff Koons.
Ça peut rapporter effectivement beaucoup d'argent.
Oui, c'est ça. Mais c'est quand même très compliqué parce que c'est aussi une grande partie de business et pas forcément de l'art en lui-même. Mais on peut trouver par exemple des métiers qui ont des aspects artistiques, mais qui c'est pas forcément que créer des œuvres d'art, mais ça peut être par exemple du design. Enfin, justement, le design ça utilise l'art, mais ça a une fonction plus utilitaire aussi.
Lénie, qu'est-ce que tu en penses ?
J'ai un avis assez différent de mes camarades. Enfin, selon moi, je pense que on peut vouloir être artiste, mais il y a l'idée de vouloir être artiste et il y a le fait de l'être et il n'y a pas tout le monde qui est capable de faire ce métier. Et aussi, parfois, si on a l'envie de faire ça, au fur et à mesure des études, on peut se rendre compte que notre envie change et je pense que ça nous est arrivé à beaucoup d'entre nous qui, au cours de notre cursus, on se rend compte qu'on veut faire quelque chose de totalement différent.
Et qu'on s'est peut-être trompé en un premier temps de direction, c'est
oui,
ça ?
Oui, c'est ça.
Et vous avez déjà une vocation, entre guillemets, vous savez déjà ce vers quoi vous voulez. Alors rapidement, vous nous le dites. On fait un tour de table, Jade.
Je veux faire illustration et narration dans mon établissement actuel, en DNMAD.
Violette
La même chose, je veux me tourner vers l'illustration et la narration, et plus tard, en espérant devenir illustratrice.
Léni ?
J'aimerais beaucoup être styliste dans une maison de haute couture.
Waouh ! Sacha ?
Moi, j'aimerais bien devenir restauratrice d'œuvres d'art.
Waouh ! Bon, écoutez, je vous souhaite vraiment, si vous accomplissez tout ça, vous avez un bel avenir devant vous.
Merci.
Et c'est réconfortant pour les plus âgés, pour les plus vieux, les anciens de la société. Faut-il avoir un don pour être artiste ? Telle est la question de leur philo aujourd'hui. Dans le cadre donc d'une nouvelle masterclass, en compagnie des élèves d'une des terminales du lycée Auguste Renoir à Paris dans le 18e, qui est très joliment située d'ailleurs dans une petite rue calme du quartier à 200 mètres à peine du cimetière Montmartre. Le professeur de la classe est là, c'est Martine Gasparoff, ainsi que la philosophe Gaëlle Perriot.
La clé ne date pas d'hier, il n'y a que toi qui peux retirer la muselière. Trempe ta tristesse dans ce bol de saudade, poétique la prise d'otage. J'ai la douleur fragile, le bonheur facile, sur moi tout glisse aussi. Chaque matin je boxe ma syntaxe pour une danse plus sympathique. Et si je m'en tiens à la légèreté, c'est que leur vision de l'amour coupe la liberté. Parce que le quotidien nous a piégés, d'une vie pesante on n'en sort que léger. Depuis petit on sait pas où me caler, gêné, je suis souvent prêt à m'en aller. Pourtant tu verras si tu te renseignes, je suis à ma place porté par les ancêtres. Faut beaucoup de vie pour ce que j'enseigne, nombreux ne sont pas ceux qu'ils pensent être. Si les hommes se cachent pour pleurer, c'est qu'ils n'ont pas le droit une fois même écœuré. Survivant du parcours fléché, j'essaye d'être léger, je suis trop lourd pour le dire. Va pas confondre la tise et la vendange, je fais la bise, ne pense plus à la vengeance. Ma colère n'est pas à vendre, armé, jeune et violent, je m'en excuse à plat ventre. Le temps est froid, il pleut des tragédies, tous ces vampires ont très peu de projets dignes. Je ne cache pas la vérité, je la maquille. Je pense aux orphelins, aux sans-famille, le silence est privilégié. On peut faire semblant d'être lourd, pas d'être léger. Les touristes et les pauvres prennent le même métro. Ils veulent nous débarrasser de la racaille pour la mettre où les thunes, c'est bien, nous sommes tous égaux devant la mort. L'invisible me guide, je les remercie d'abord. Le bien et le mal sont contigus. Beaucoup de ceux qui se plaignent de ce monde y contribuent. Ils crachent dans la soupe disque, la mer est démontée. La course au plus beau, la gentillesse démodée. Des problèmes de 300 ans, pas ta cause, photo. Chaque révolte finit derrière un logo. Toujours flatté quand on me traite de bobo, sans envoyer aucun mandat, ni avoir enterré autant de poteaux. Retourne défendre les pandas. Aujourd'hui, les chiffres s'achètent. La première maison, c'est dans ta tête. Depuis l'ombre des clics, tout a un prix. Au-dessus de 10 millions, c'est plus un crime. Fuck demain, l'instant présent c'est l'avenir. J'ai fait mon temps, le meilleur est à venir. Je vais là où le public m'amène. Plus de 50 piges qui m'amènent. Parler alourdi, agir trop léger. Je suis passé du kebab au mezé. Littéralement les mots sont pesés. Je traverse donc les commentaires aisément, avec le love des fans et des haters. Mon épée lyrique efface les peurs. Une proposition tout m'enchantante quand les idiots se demandent ce qu'ils foutent ensemble. Allez, on reste léger.
Léger, c'était Oxmo Puccino. Qui dit art, dit Platon. Alors, il n'a pas épargné les artistes, on va l'entendre. Il les nomme pas ainsi, mais enfin bon, et il en remet quand même plein la figure. Extrait de Phèdre.
La troisième forme de possession et de folie est celle qui vient des muses. Lorsqu'elle saisit une âme tendre et vierge, qu'elle l'éveille et qu'elle la plonge dans une transe bacchique qui s'exprime sous forme d'ode et de poésie de toutes sortes, elle fait l'éducation de la postérité en glorifiant par milliers les exploits des anciens. Mais l'homme qui, sans avoir été saisi par cette folie dispensée par les muses, arrive aux portes de la poésie avec la conviction que, en fin de compte, l'art suffira à faire de lui un poète, celui-là est un poète manqué. De même, devant la poésie de ceux qui sont fous, s'efface la poésie de ceux qui sont dans leur bon sens. Tu vois tous les beaux effets, ce ne sont point les seuls que je suis en mesure de mettre au compte d'une folie dispensée par les dieux.
Alors ce texte de Platon, en fait c'est Socrate qui parle, vous l'avez étudié en classe, l'inspiration comme une folie dispensée par les dieux, par les muses on peut dire aussi, il faut des compétences tout de même techniques. Je voudrais savoir ce que vous en pensez, vous les élèves. Jade.
Platon présente les artistes comme des âmes vierges qui seraient possédées par une puissance divine. Je trouve que ça diminue vachement le travail de l'artiste en le plaçant en tant que marionnette d'une puissance divine. Et peut-être aussi très décourageante pour ces poètes manqués, ces artistes qui n'arrivent pas à faire connaître leur savoir et leurs arts. Et peut-être que cette vision de l'artiste possédé par les dieux serait peut-être à remettre en question, parce qu'elle est très pessimiste.
Léni ?
À vrai dire, je pense que si un artiste est possédé par des dieux, il y a aussi cette idée de spiritualité qui serait à développer, et ce côté spirituel qui est vraiment... comme si la spiritualité rentrait dans la personne, et du coup, ça évoque encore plus cette idée que un artiste a vraiment un don et que pas tout le monde est capable de faire ça. Du coup, ça peut rajouter une sorte de valeur ajoutée à son travail.
Qu'est-ce que c'est que le génie pour vous? Je ne sais pas qui veut répondre. Tasha.
Le génie, il y a plusieurs interprétations. Il y a soit du coup l'aspect spirituel, où ce serait une force qui vient, enfin un cadeau en fait donné par une force suprême à une personne, et du coup c'est quelque chose avec lequel un artiste serait né. Ça peut aussi être compris comme du travail, et le fait de savoir choisir entre les bonnes œuvres et les mauvaises œuvres, entre le bon travail et le mauvais travail qu'un artiste aurait fait. Et c'est le fait de réussir à choisir en fait parmi ses œuvres lesquelles il veut montrer en fait.
Violette, d'un mot ?
Non, le génie en fait c'est quelque chose... Enfin, le don, quoi, c'est quelque chose d'inexpliqué de la part de l'artiste. Vraiment une poussée, genre de créativité, quelque chose qui fait qui lui donne une œuvre d'art, quoi. Ou c'est vraiment quelque chose qui apparaît dans la tête de l'artiste. Waouh, je vais faire un truc, ok, c'est bon. Plutôt que du temps de réflexion, de travail personnel.
Gaëlle Perriot, qu'est-ce que c'est que le génie? Comment est-ce que la philosophe que vous êtes...
Alors les théories du génie peuvent se rattacher en fait à ce texte de Platon, mais je dirais qu'elles sont plus tardives. Mm-hmm. Et ce que déjà dans le texte de Platon on entend, c'est qu'il y a une sorte de chaîne. C'est d'ailleurs dans ces termes qu'on le trouve dans le Phèdre, d'ailleurs une espèce de flux magnétique qui se répand d'anneau en anneau jusqu'au poète, et même jusqu'à celui qui interprète le poète, le rhapsode, qui, dans sa manière d'agencer une œuvre et dans son interprétation, transmet quelque chose. Et ça, c'est une chose qui me paraît intéressante tout de même à rappeler quand je vous entendais parler de Platon. Effectivement, il y a toute une critique des arts qui est dominante dans la pensée de très sévère dans la pensée de Platon. Platon parle d'un ancien différent entre le philosophe et l'artiste en République 10. Et en même temps, dans ses textes du Phèdre, dans Ion, On trouve aussi, comme vous le disiez, une origine surnaturelle qui n'est pas simplement une critique de l'artiste. Alors, on n'oubliera pas que Platon a été poète. Nietzsche rappelle dans le chapitre 14 de La naissance de la tragédie qu'il aurait brûlé tous ses poèmes à la rencontre de Socrate.
Parce qu'il les trouvait mauvais.
En tout cas, parce que la philosophie s'est imposée à lui et que ce différent entre l'homme des idées et l'homme de la parole et de la matière poétique, ces deux hommes-là peut-être se sont trouvés en difficulté pour dialoguer, mais en tout cas, il y a ces très beaux textes et qui laissent penser aussi que l'artiste inspiré, le délire inspiré n'est pas complètement rejeté de la République. Il peut être admis sous contrôle du philosophe et l'artiste inspiré a quelque chose à dire aux générations à venir. Il transmet quelque chose pour les générations futures. Donc ça, c'est une chose intéressante. C'est-à-dire le don commence quelque chose et permet d'ouvrir un avenir. Nous le retrouvons dans des théories du génie.
Léni ?
Je m'extrapole un peu, mais enfin, c'est surtout Kant qui a beaucoup parlé du génie, notamment en utilisant plusieurs catégories.
Il bosse, hein, Léni.
notamment avec l'originalité, le génie va aller à l'encontre de ce qui a été appris dans l'art. Aussi, l'exemplarité, il va essayer de choquer, de provoquer. Nous le remarquons avec les génies, on pourrait dire les artistes actuels, où il y a toujours cette idée de provocation pour faire réfléchir et pour ne pas se faire oublier, entre guillemets, si je puis dire. Et aussi cette idée d'inexplicable. C'est inexplicable, enfin, on n'arrive pas à expliquer le génie, c'est ce qui fait son
mythe. Mais est-ce que le génie, c'est pas aussi quelque chose qui provoque une émotion? Parce que quand vous êtes face à une œuvre d'art, j'imagine les uns et les autres, vous en avez fait l'expérience, il y a une émotion qui vient à vous, non? Est-ce que le génie, c'est pas ça aussi?
Si, je suis totalement d'accord avec vous.
Ah bah ça tombe bien. Jade?
Je trouve que l'émotion face à une œuvre d'art est très subjective. On va prendre l'exemple de l'art classique. Je vais être moins touchée par des tableaux de Delacroix que des tableaux ou des performances artistiques. Par exemple, vous avez fait visionner la vidéo Le baiser de l'artiste d'Orlan. Et j'ai trouvé ce dispositif plus touchant que de l'art classique. Et je pense que chacun a des sensibilités différentes. Et le génie, c'est quelque chose qui est toujours très subjectif. Et je pense que poser des mots dessus, ça accroît l'abstraction.
Il y a un aspect aussi que vous avez travaillé de près, c'est l'art et la vérité. Parce que donc pour Platon, l'art, c'est que des apparences. Un tableau, par exemple, pour prendre l'exemple d'un tableau, mais ça ne serait qu'un miroir. Qu'est-ce que vous pouvez dire de ça, Martine Gasparoff?
Oui, alors effectivement.
Pour Platon, hein, j'entends.
Faites-vous
l'avocate du diable.
C'est la position, effectivement, que soutient Platon, notamment en République 10, où il est assez sévère envers eux. Il dit effectivement, même pas la peine de s'embêter avec un savoir-faire pictural. Il suffit de prendre un miroir et de se balader sur un chemin.
C'est aussi ce que disait Stendhal sur la littérature, hein, d'ailleurs. Un roman, c'est un miroir qu'on promène le long d'un chemin.
Oui. Donc, en ne tenant pas compte, justement, de toute cette spécificité d'un travail technique qui est aussi un travail très sensible, parce que pour Platon, les artistes sont un peu comme des sophistes, sont des gens qui ne savent pas de quoi ils parlent. Et ça, c'est vraiment le reproche majeur qu'il leur adresse, c'est que ce sont des gens qui se font passer pour des compétents dans différents domaines et qui n'ont en fait aucune compétence.
Pour en venir à Platon, il critique vivement Homère qui, dans l'Odyssée, parle de choses qu'il ne connaît pas parce qu'il n'y est même pas allé. Et moi, ça m'a fait penser d'ailleurs, alors là, c'est vraiment contre Platon, à une phrase de Blaise Cendrars à propos d'un texte qu'il avait écrit sur la prose du Transsibérien, qui est donc un voyage à travers la Russie. Et un journaliste lui dit, mais enfin, comment pouvez-vous en parler? Vous n'y êtes jamais allé. Et il a dit, qu'est-ce que ça peut faire puisque je vous l'ai fait prendre à tous ce train.
Martine oui, Gasparov. Alors effectivement, il est très virulent contre Homère, aussi bien contre l'Iliade que l'Odyssée, qui sont en fait deux poèmes de référence pour tous les Grecs de son époque, qui ont un peu une valeur presque pédagogique ou éducative, qui accompagnent en fait les Grecs dans leur dans leurs activités aussi bien morales que politiques. Ce que fait Platon, c'est qu'il, d'une certaine manière, il dénonce le fait que Homère s'empare de sujets qu'il développe, comme le gouvernement d'une cité, comme le fait de mener une guerre ou d'éduquer des enfants, et qu'il n'a démontré aucune compétence dans ces matières-là. Il n'a jamais dirigé de cité, il n'a jamais été général en chef d'armée, il n'a jamais monter une école philosophique ou de pensée comme aurait pu le faire Pythagore. Donc finalement, qu'est-ce qui l'autorise à écrire de telles choses qui sont devenues des références pour la plupart des Grecs?
Après Platon, Nietzsche, vous voyez que ça vaut le haut.
Les artistes ont intérêt à ce qu'on croit aux intuitions soudaines, aux soi-disant inspirations, comme si l'idée de l'œuvre d'art, du poème, la pensée fondamentale d'une philosophie, tombait du ciel comme un rayon de la grâce. En vérité, l'imagination du bon artiste ou penseur produit constamment du bon, du médiocre et du mauvais. Mais son jugement extrêmement aiguisé, exercé, rejette, choisit, combine. Ainsi, l'on se rend compte aujourd'hui, d'après les carnets de Beethoven, qu'il a composé peu à peu ses plus magnifiques mélodies et les a en quelque sorte tirées d'ébauches multiples. Tous les grands hommes sont de grands travailleurs, infatigables non seulement à inventer, mais encore à rejeter, passer au crible, modifier, arrangé.
Humain, trop humain, Nietzsche. C'est le jugement de l'artiste, au fond, qui fait toute la différence, Gaëlle Perriot.
Alors, c'est un texte intéressant parce qu'il renverse en quelque sorte la manière dont on appréhende le travail de l'artiste en insistant sur sa puissance imaginative. Les philosophes qui précèdent Nietzsche insistent vraiment sur cette fonction de l'imagination. Et là, ce sur quoi Nietzsche met l'accent, c'est sur le jugement, sur cette capacité à passer au crible et sur le travail de l'artiste. Donc l'exemple de Beethoven vient éclairer cela, et l'insistance sur l'ébauche prolonge ce que je disais initialement, c'est-à-dire que Nietzsche réinscrit l'œuvre comme résultat dans un processus. Cette question des ébauches et des répétitions est une question qui m'intéresse et que j'ai déjà eu l'occasion de travailler. Et c'est vrai que quand on regarde, on se penche en fait sur l'activité de grands peintres, de grands artistes comme Léonard de Vinci, on voit à quel point les ébauches, les esquisses, le repentir, ce qu'on appelle le repentir, réinscrit l'œuvre en fait dans une temporalité beaucoup plus vaste qui se démarque en fait des théories du génie qui vont plutôt du côté, enfin en tout cas qui pourraient, si on les caricaturait, aller du côté de l'impulsion, de l'immédiateté, de l'absence de médiation et de l'image qui surgit dans l'imagination, ce qui est probablement à côté en fait de la réalité du travail des artistes.
Mais justement à propos de travail, je voudrais qu'on fasse une parenthèse sur le vôtre, Gaëlle Perriot. Vous vous êtes beaucoup intéressée, vous avez écrit un livre que je vais citer tout à l'heure, au côté éphémère De certaines œuvres. Une œuvre, c'est pas fait pour durer ?
Alors, précisément, si mon intérêt est porté sur les œuvres éphémères, c'est parce qu'elles semblent contredire une vocation de l'œuvre d'art à durer, en tout cas une vocation que dans la tradition occidentale, on lui donne. On trouve des textes très forts d'Hannah Arendt dans Conditions de l'homme moderne sur le fait que l'œuvre d'art est l'objet le plus durable et en ce sens assure une sauvegarde du monde humain. Et effectivement, il faut bien reconnaître que la préservation d'œuvres d'une civilisation déterminée permet de prolonger l'esprit d'un peuple, de le transmettre, de rendre compte de l'esprit d'une époque. Donc il ne s'agit absolument pas de contredire la force de cette articulation entre l'œuvre et sa permanence. En revanche, ce qu'on découvre quand on travaille sur les œuvres éphémères, ce sont justement toutes ces procédures de transmission qui sont moins visibles lorsqu'on s'intéresse simplement à des œuvres durables, objets conservés dans les musées et en quelque sorte immortalisés. Dans le cas des œuvres éphémères, on ne peut pas faire l'impasse ni sur les travaux préalables à ce moment éphémère de l'œuvre, une performance par exemple, ni sur ce que devient ensuite la performance. Vous parliez d'Orlan tout à l'heure, des artistes contemporains, contemporaines, parce que beaucoup de femmes en fait se sont inscrites dans le champ de la performance à l'époque contemporaine, ont beaucoup travaillé aussi sur les médiations que sont la photographie, la vidéo, le témoignage, pour réinscrire en fait l'éphémère dans un devenir, mais qui ne tient pas simplement à l'immortalisation d'un objet.
Alors, vous ne les voyez pas peut-être de la place que vous occupez, mais derrière, là, au fond du studio, il y a Ange et Lisa qui sont en train... Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Parce que ce n'est pas des notes que vous prenez, vous êtes en train de dessiner?
Oui, je dessine la table et vous en même temps.
Est-ce que, là je m'adresse à vous tous, c'est que un tableau, alors ça peut être un tableau, ça peut être une culture, ça peut être un poème, une BD, une musique, est-ce que pour vous c'est un plus par rapport à la réalité? Eva, tu as quelque chose à dire là-dessus?
Si on dit que la réalité c'est vraiment ce qu'on peut voir par exemple dans la rue, ce qu'il y a dans notre quotidien, etc. Donc quelque chose qui peut être très matériel, l'art peut en effet nous donner un aspect beaucoup plus sensible de la spiritualité déjà de l'artiste, mais qui reflétera aussi l'esprit d'une époque, d'une société, et qui pourra toucher beaucoup plus de personnes que si c'était par exemple quelque chose de juste très concret.
Et est-ce que ça te permet, est-ce que ça permet d'une manière générale de voir la réalité autrement? C'est-à-dire après avoir vu, je pense à Cézanne, mais on peut prendre plein d'autres exemples. Est-ce que une coupe, par exemple, si tu mets des pommes dans une coupe, est-ce que tu les vois différemment parce qu'il y a eu dans ta mémoire, il y a le tableau, il y a un des tableaux de Cézanne?
Ça peut. Je me rappelle plus de l'artiste, mais on avait bien vu en cours que effectivement les artistes nous permettaient de voir une certaine beauté en plus dans notre monde, donc comme à peu près soulever un voile qui nous permet d'aller au-delà de ce que on peut voir.
Alors là, Bergson, hein, c'est l'artiste, c'est celui qui lève le voile, Martine Gasparoff.
Effectivement, Bergson va montrer que la perception qu'on a du monde et celle de l'artiste n'est pas exactement celle de la perception commune, dans le sens où la perception commune voit le monde au travers de la fonction des objets, et que l'artiste va avoir une perception immédiate, sans médiation, sans intermédiaire, et qui lui permet finalement de dégager effectivement une sensibilité, une vérité, et l'artiste est capable aussi d'apprendre à percevoir en artiste. Donc c'est ce que vous évoquiez, c'est le fait que la culture qui est la nôtre, les tableaux qu'on a dans notre musée imaginaire, si on peut dire, nous permettent de percevoir la réalité d'une manière nouvelle, d'en saisir la beauté, d'en saisir des aspects de lumière, de couleur, de forme, de nous rendre attentifs aux aspects de la réalité.
Gaël Perriot.
Oui, alors du coup, c'est ce qui prolonge l'intervention de Eva, qui, je crois, cherchait l'exemple que vous avez abordé en cours, puisque j'ai assisté à une séance des brouillards de Londres dont parle Wilde, et que les impressionnistes auraient permis de voir, c'est-à-dire qu'on ne percevait pas auparavant le smog dans la réalité, et que la peinture, justement, est ce qui va permettre de se rendre attentif à ce que la perception ordinaire efface.
Donc il y a quelque chose de l'essence qui est saisi.
Exactement, exactement. Ouais. Ce sont des termes d'ailleurs que prend Merleau-Ponty, qui par ailleurs est un grand lecteur de Bergson, mais pour rendre compte de ce que fait Cézanne en travaillant ses pommes, il atteint l'être pommesque de la pomme en quelque sorte.
C'est joli,
il y a pommesque. Aussi dans son travail du contour, une chair du contour, que la représentation commune, donc pas simplement la perception ordinaire, mais aussi les représentations communes des objets, auraient tendance à appuyer le cerne, la manière dont Cézanne travaille le contour en lui donnant une chair, est une ouverture de la perception sensible et de sa profondeur. Et c'est là que le philosophe s'intéresse effectivement à l'approche de l'artiste, c'est qu'il a la capacité de rendre raison d'une... Rendre raison, c'est peut-être pas le terme de raison là qui s'imposerait, mais en tout cas de rendre compte de manière réflexive et profonde de la chair du sensible.
Mais il y a beaucoup de philosophes qui sont intéressés à l'art. Il y a beaucoup d'écrits sur l'art. Je crois que vous connaissez bien Deleuze, et Deleuze, Dieu sait s'il s'est intéressé à l'art aussi, non?
Oui, tout à fait. Alors il y a justement tout à l'heure, en t'entendant, Martine, je pensais à Deleuze, parce que tu disais voilà, aussi pour l'artiste, le besoin de sortir partir des médiations, de la perception commune, d'arracher un objet à sa fonction. Et Deleuze a de très belles, très beaux moments, drôles aussi, dans les conférences qu'il donne à Vincennes. Mais on trouve aussi cette réflexion dans La logique de la sensation, un ouvrage qui porte sur la peinture de Francis Bacon. Et Deleuze dit, mais on dit toujours qu'écrire pour un écrivain, ou peindre, en l'occurrence pour Bacon, pour un peintre, c'est l'angoisse, et c'est de se confronter à l'angoisse de la page blanche ou l'angoisse de la toile vierge. Mais pas du tout. C'est pas du tout ça le problème. Le problème n'est pas du tout la page blanche, n'est pas du tout la toile vierge, hein, ce qui est corrélatif d'ailleurs d'une théorie du génie qui partirait de rien, ex nihilo, vous voyez, d'une création qui viendrait de rien. Il dit non, le premier travail âpre, c'est de vider la page de ses clichés, vider la toile de toutes les images déjà faites. Et ça, ce travail de faire le vide, finalement, on passe un petit peu à côté quand on pense la question de la démarche artistique à partir du don. Voilà, tout de suite, une image qui s'impose à partir de rien. Il y a d'abord tout un travail préparatoire qui consiste à faire le vide.
Chiara, tu as des choses à dire.
Mais pour la perception personnelle dans l'art, je crois que ça peut être tellement différent, même si en dépictant des choses similaires. Non seulement ça varie non seulement avec le genre ou l'âge. Je crois que ça aussi dépend de l'endroit d'où la personne vient, des racines culturelles.
Du contexte en quelque sorte.
Oui, du contexte, exactement. Ouais. Un exemple dont je pouvais penser, c'était, je ne sais pas exactement le nom, mais c'était un endroit en Angleterre, je crois, où il y avait un artiste ou français ou anglais et un artiste chinois qui dépictait le même endroit et il est dessiné de façon très différente. L'artiste chinois spécialement, c'était on pouvait, si on regardait simplement sans le contexte de ce qu'il dessinait, on dirait vraiment un paysage plus asiatique d'un endroit comme la Chine, même si ce n'était pas, la seule différence étant qu'il y avait des vaches et des choses plus marquantes de l'Europe.
Notre regard est culturel en quelque
sorte.
Oui,
exactement. Ouais. Ça dépend aussi de mouvements artistiques, par exemple, même dans des mêmes époques, dans différents pays, il y avait des mouvements artistiques très différents et très variés, que ce soit graphique, musique par exemple, moi, j'y pensais beaucoup, l'animation, dans différents... parce que j'aime bien.
Qu'est-ce que tu voudrais faire, Chiara, d'ailleurs, dans ta vie ?
L'animation.
Précisément. C'est Chiara, pardon, j'ai dit Chiara.
Oui,
j'ai prononcé à l'italienne, mais c'est Chiara.
Oui, c'est Chiara. D'accord. Mais oui, dans différents mouvements d'animation, par exemple, même aux mêmes époques, l'animation en Russie était très différente que l'animation en Amérique, ou en France même, très variée, très différente. Avec des façons d'animer très différentes également aussi. Parce que ouais, l'animation en Russie était animée très différemment que l'animation faite en Afrique ou en France ou en Amérique, même s'il y avait des inspirations, certes, avec des inspirations d'autres pays.
Vous en savez des choses. Jade ?
Eh ben, on a Hegel qui, justement, parle de la spiritualité du peuple qui s'exprime à travers l'artiste. Et là où auparavant on avait cette individualité, ce génie dans son coin qui était un peu touché par quelque chose d'au-dessus, là on a comme une communauté, quelque chose qui donne l'impression de groupe. Et c'est vrai que quand on voit l'art comme plusieurs groupes de personnes qui expriment leur spiritualité à travers différents médiums, on a moins cette impression que, cette impression très fataliste qu'on n'arrivera jamais à se faire un nom dans un milieu aussi élitiste. Et on se sent comme faisant partie d'un tout. Et je pense que, en tant qu'élève d'SC2A, c'est quelque chose qui rassure énormément. Parce que l'art en soi, c'est très décourageant. Il y a toujours cette mystification du génie dans les études, où on parle, par exemple, d'un grand designer qui vient de notre école, et on nous parle souvent des attentes et du travail colossal qu'on doit fournir afin de réussir.
Ce qui est vrai, d'ailleurs.
Bah oui, c'est vrai. Mais il y a aussi un petit peu... C'est quelque chose qui cette... mystification qui reste autour de nous. Et je pense qu'on s'est toujours déjà dit quelqu'un dans cette classe sera un jour très connu, et quelqu'un dans cette classe a un vrai don, et moi à côté je fais pas la taille.
Mais qui dit que quelqu'un a un don ou du génie? Qui le dit? La personne elle-même, son entourage, l'opinion publique, Gaëlle Perriot?
Alors moi, je voulais répondre à ce que vous disiez, Jade, parce que peut-être que de votre classe émergera un collectif. Oui. Et ça, c'est l'alternative qu'il faut remettre, je dirais, à l'honneur, que d'ailleurs des théoriciens comme Howard Baker ont bien montré lorsqu'il publie en 1982 Les mondes de l'art, c'est que en réalité, ces figures qu'on isole, le designer, il est réinséré dans un réseau et en réalité, alors il donnera plus ou moins de place au collectif. C'est vrai qu'il y a des arts, par exemple les arts de la scène, où on va donner davantage de place au collectif, moins dans la tradition des arts plastiques. Je sais que Martine, tu as travaillé sur la figure de Berthe Morisot. C'est peut-être intéressant d'en parler là.
Oui, de repenser en fait l'horizontalité qui peut y avoir dans la création artistique et pas simplement cette verticalité qui identifie un génie, une personnalité à part. Et effectivement, le cas de Berthe Morisot, qui a été analysé par Florence Brugère, nous montre que on isole en général le cas Manet, qui aurait été le génie de son époque, et on oublie qu'en fait, ils ont travaillé en commun, plusieurs artistes, et notamment dans les fréquentations des uns avec les autres, et notamment chez Berthe Morisot, qui, elle, était une femme, donc qui n'avait pas forcément sa place, la même place dans les ateliers, et qui travaillait beaucoup de sa cuisine, qui a peint en extérieur, et qui a effectivement impulsé peut-être quelque chose qu'on a attribué à d'autres, parce qu'ils sont des figures marquantes, mais qui empêche de penser cette espèce de réseau de d'influence, en fait.
Vous êtes bien sur France Inter et figurez-vous que c'est l'heure philo que vous écoutez. rappelle que nous parlons donc de l'art. Faut-il un don pour être artiste? La réponse est extrêmement compliquée. Nous travaillons en compagnie de Gaëlle Perriot, de Martine Gasparoff et de sa classe de terminale, donc du lycée Auguste Renoir à Paris dans le 18e. Est-ce qu'un artiste peut aujourd'hui se dire « moi je suis engagé » Est-ce qu'il y a un engagement politique dans l'art pour toi?
Bah, bien sûr, pour moi, il y a toujours un engagement politique parce que, je veux dire, on essaie de transmettre des valeurs à travers l'art. L'art, pour moi, est de toute façon politique. Enfin, comme j'ai dit, on essaie de transmettre des valeurs, ce qu'on pense. Enfin, c'est très personnel, quoi.
Ange, tu penses que l'art est politique ?
Oui. Je pense que l'art doit être politique et politique.
Il doit être politique, oui. Pour toi.
C'est important de donner la parole aux minorités. On peut voir avec Arthur Jaffa, avec Monster, il a fait une photo de lui et il montre comment les gens le perçoivent, les gens racistes.
Ah,
enfin, parce
oui,
que justement,
d'accord.
C'est une photo qui dénonce les stéréotypes, la soi-disant bestialité des personnes racisées, alors que voilà, donc ça permet de donner la parole aux gens, enfin aux minorités, pour que elles peuvent tout simplement dénoncer des comportements ou juste créer des liens, que si on a des préjugés, des billets, d'arrêter d'avoir ces billets-là.
Mais par le biais d'une émotion, on fait passer ça, ça passe mieux que par un long discours ? Une photo, par exemple, en dit plus qu'un long discours ?
Oui. Déjà, je pense que l'art doit juste simplifier des choses complexes pour que tout le monde puisse comprendre, parce que des longs textes, enfin, on peut voir en philosophie, enfin, c'est des longs textes, et c'est peut-être pas forcément accessible à tout le monde, alors que une peinture, une photo peut être plus percutante pour le grand public.
Isabelle,
avec l'art, on revient à la sensibilité de l'homme, au premier à notre rapport au sens qu'on partage tous en tant qu'humain. Et dans une société comme la nôtre où il y a l'arrivée constante de surcharge d'informations et de médiatisation tout le temps, partout, on a besoin de choses qui viennent appuyer des propos politiques engagés, qui travaillent dans l'instantané du temps. On a besoin de percuter les gens de manière plus rapide qu'on le faisait auparavant.
Gaëlle Perriot.
Oui, alors moi, je suis vraiment intéressée par vos interventions, parce que je pense que quand vous dites, vous êtes plusieurs à l'avoir dit, que l'art est politique, vous voulez dire aussi, enfin, vous me corrigez si je me trompe, mais que l'art est politique, même quand son contenu, même quand les idées qui sont exprimées ne sont pas directement, explicitement politiques. C'est-à-dire que le choix d'une forme sensible est politique. Alors moi, je me suis beaucoup intéressée au mouvement Dada, au début du XXe siècle, qui pour le coup relève d'un collectif.
Futurisme et Dada, ça fait partie donc d'Éclat de Lumière, l'essai que vous publiez.
Éclat de l'éphémère, oui.
Éclat de l'éphémère, ouais, pardon.
Dans le mouvement Dada, il y a une chose qui est assez remarquable, c'est qu'ils vont utiliser des boutons, des tickets de métro, des rebuts en fait. Hein, de même que la poésie de Tristan Tzara est faite de mots collés les uns aux autres qui n'ont pas de dignité littéraire évidente. Et donc le fait d'utiliser un matériau qui vient de la vie ordinaire, le fait de choisir cette forme-là, relève d'un engagement politique assez évident par ailleurs quand on connaît le profil de ce collectif qui se retrouve à Zurich en 1916 et qui est fait d'artistes qui ont fui la guerre et qui sont pacifistes. La force politique d'un art se manifeste parfois tout à fait explicitement et à juste titre dans des contextes où une position est attendue avec la force des moyens sensibles que les artistes savent mobiliser, mais aussi de manière parfois plus discrète dans des choix de matériaux, ce qui doit vous parler certainement dans vos pratiques. Enfin, c'est intéressant aussi d'ouvrir sur vos pratiques. Le choix d'un matériau n'est jamais indifférent, n'est jamais neutre.
Mia ?
Oui, comme autre artiste contemporain, je voulais citer Banksy, qui est très important, et parce que ses œuvres sont très politiques, majoritairement, et en fait, elles sont facile de compréhension et pour tout âge. C'est pour ça que c'est important.
Léni ?
C'est surtout pour reprendre que ce que disait mon camarade Ange dans cette idée de représenter les minorités, parce que chaque personne doit avoir une voix et doit pouvoir être représentée. Je pense surtout au travail de la photographe Diane Herbus, qui, à travers ses photographies, a montré les minorités comme les prostituées, les homosexuels, les personnes atteintes de handicap physique. Et chaque personne doit mériter d'avoir une voix et une parole, en fait. C'est quelque chose d'hyper important.
Est-ce que vous pensez que là, vous tous, autant que vous êtes, il y en a qui se connaissent évidemment mieux, vous êtes copains plutôt les uns avec les autres, mais est-ce que vous auriez une sorte de, je sais pas, de façon d'être au monde commune? Est-ce qu'il y a une communauté entre vous? Soit dans la marginalité, soit parce que vous marchez sur des sentiers déjà tracés. Est-ce que vous avez un art de vivre qui vous serait commun? Qu'est-ce que vous en pensez, Jade?
Je pense que dans énormément de mouvements, on a énormément de collectifs. On peut penser aux BOS, on peut penser aux ateliers viennois. Et en fait, ça a toujours été presque un réflexe de se rassembler en tant que collectif. Parce que je ne pense pas que l'art, c'est quelque chose d'individuel. Je pense que c'est quelque chose qui parle à une communauté, qui parle à un groupe, et l'artiste n'est jamais seul. On a toujours un artiste qui apprend de quelqu'un, et cet artiste qui a appris de quelqu'un l'apprend à quelqu'un d'autre, et je ne pense pas que l'artiste soit seul dans sa création.
Martine Gasparoff, le bac, c'est pas demain, mais il me semble plutôt près, non ?
Oui, je suis ravie. Bossé, hein. Et donc on pourrait presque terminer en disant que l'artiste, c'est pas seulement celui qui a un don, mais c'est aussi celui qui donne de soi, qui donne de lui, qui est généreux, qui donne du sens, qui donne des valeurs, comme l'ont dit certains. Et je suis impressionnée effectivement par leur capacité à réagir à propos.
Eh bien, merci à vous tous, élèves de la classe, d'une des classes de terminale du lycée Auguste Renoir à Paris, qui, je le rappelle, forme au diplôme des métiers d'art et du design. Bonne chance, je vous dis pas un autre mot parce qu'on peut pas le dire à l'antenne, pour votre bac. Merci Martine Gasparoff.
Merci à vous.
Merci Gaëlle Perriot. Je rappelle donc le titre de votre essai, Éclat au pluriel de l'éphémère, Futurisme et Dada à l'épreuve du temps à Gonale. C'est publié aux éditions Mimesis. Et merci à Franck Olivard qui, comme d'habitude, a prêté sa voix au philosophe.